Regard.
L'émission qui multiplie les points de vue.
En partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse.
À écouter sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà déjà au terme de notre année de regard croisé, de regard échangé à la scène nationale de Bourg-en-Bresse. Bonjour Pascal, bonjour Julie. Vous êtes en studio ce mercredi 11 juin pour échanger autour notamment de la soirée regard qui avait lieu hier et qui s'intitulait « Penser demain ». Alors Élodie n'est pas présente, mais on la remercie évidemment. Alors « penser », je précise avec un « e », mais ça aurait pu être avec un « a ».
Radio B, Radio B.
Penser demain, c'était donc le thème de la soirée d'hier avec François Hien, qu'on ne présente plus, dramaturge, metteur en scène, mais tu nous en diras quelques mots plus tard, Pascal, mais aussi Corinne Morel-Darleux, essayiste, et Benjamin Raquin, maire de Grand Coran. Alors Pascal, on y était hier, qu'est-ce que tu as retenu toi de cette soirée ?
Bien, les trois acteurs de la soirée ont échangé et partagé sur leur parcours, leur manière d'agir, de créer et leur engagement dans la transition écologique notamment, mais via la politique au niveau local pour Benjamin Raquin, via le récit poétique, notamment de la dignité avec Corinne Morel-Darleux et le théâtre du réel pour François Hien. Donc ils sont partis notamment, si on reprend une des notions apportées, c'est le trépied de la transformation sociale. Donc dans ce trépied, il y a d'abord la bataille du culturel pour construire un récit commun. François Hien a évoqué un projet de pièce de théâtre avec son complice, enfin un de ses complices, Jérôme Cochet, qui fait suite à leur pièce « Mort d'une montagne ». Donc là, cette fois-ci, c'est un projet de pièce sur un incendie avec une approche sensible à des ravages des flammes sur la végétation, les oiseaux, les habitants, qui aura pour titre « Feu, la forêt ». Mais aussi, deuxième point du trépied, les résistances et luttes locales avec les expériences en qualité, notamment de maire, celle de Benjamin Raquin, qui est maire de la commune de Grand Coran, donc je crois 180 habitants. Hein, mais il est aussi, au fil de son parcours, il nous a expliqué son choix désormais d'être élagueur. Donc aussi, il nous a parlé de sa vision, l'évolution des arbres, de la forêt, avec toute cette notion pour lui de préserver l'environnement, qu'il essaye de mettre en œuvre pour son troisième mandat de maire de Grand Coran, notamment en favorisant le dialogue et la participation des habitants sur les décisions locales, avec des comités citoyens notamment. Alors il a donné plusieurs exemples, il a donné l'exemple du rallye du Suran, qui traverse sa commune habituellement, je dirais, mais qu'il a interrogé parce que au niveau préservation de l'environnement, voilà, il y a quelque chose à redire peut-être sur l'organisation même de rallye automobile. Il a souhaité pas prendre la décision seule, mais interroger ses concitoyens en tant que maire. Et pour le coup, il a fait une sorte de référendum. En tout cas, les habitants ont été interrogés et ont décidé de maintenir la participation, le passage du rallye sur leur commune. Donc, il s'est plié à la décision commune, puisque du coup, son idée, quand même, ce qu'il a développé hier, c'était remettre du commun. Et en sa qualité de maire, il l'a fait sur cette décision par rapport au passage du rallye, mais aussi sur son projet de remettre en place un bistrot au sein de la commune pour vivre des choses en commun, tous ensemble, et participer à l'écriture de ce récit commun. Et la troisième partie du trépied, c'est de transformation sociale, c'est les alternatives, en fait, ce que l'on souhaite pour demain, et notamment avec cette notion de dignité, dignité qui est chère à Corinne Morel-Darleux, pour compenser peut-être le manque de cette dignité et trouver, selon leurs termes, une raison de bonne foi pour continuer, pour garder espoir. Et elle nous a fait part notamment d'une expérience. Alors, cette semaine, c'est qui est en lien notamment avec la conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC, hein, qui est réunie depuis dimanche, je crois, à Nice. Et elle a évoqué, Corinne Morel-Darleux, sa participation à une étude sur un voilier qu'elle a fait durant un mois, où ils sont allés étudier dans la zone mésophotique. C'est la zone de profondeur entre 30 et 150 mètres, là où il y a encore de la lumière, où elle a pu participer à l'étude des forêts animales marines, c'est-à-dire les coraux, en fait, les coraux qui font forêt et qui font milieu de vie voilà, dans la zone mésophotique. Donc, ils ont échangé sur les trois intervenants sur les inquiétudes vertigineuses au niveau écologique, sur la remontada des initiatives autogérées, notamment au moment de la pandémie, sur l'humilité aussi qu'ils avaient chacun. J'ai relevé cette expression, entre autres, il y en a eu des vraiment chouettes, mais notamment sur les points d'acupuncture qu'ils posent dans le sol.
Eh bien, merci Pascal pour cet aperçu. Julie, c'est toi qui étais aux manettes de cette soirée hier. Soirée quand même relativement riche, agréable, malgré la chaleur qui faisait dehors.
Ah, qui faisait dehors, mais aussi dedans. Hein. Ouais. On avait vraiment très chaud dans cette salle pour une fois. C'était assez rigolo d'ailleurs d'avoir une espèce de corrélation entre le dedans et le dehors. C'était intéressant puisque c'est des trois invités qui ne se connaissaient pas et au final beaucoup de liens ont été faits. Moi je vous avoue que ces trois coups de cœur, quand je monte ces soirées, je réfléchis, alors nous réfléchissons en équipe aux thématiques, ce qu'on n'a pas pu aborder, ce qui n'a pas pu être abordé dans les spectacles et qui va avec notre grande thématique globale qui était celle du futur. Et je voulais un peu l'aborder autrement, tout en parlant d'écologie, mais essayer d'avoir d'autres perspectives. Et c'est à chaque fois des coups de cœur, entre guillemets, de ces trois rencontres. Je commence, je ne sais pas, par Benjamin, que je connais parce que j'ai des amis sur la commune de Grand-Coran et qui... je ne sais pas si je lui ai dit ça, mais en tout cas, tout le monde dit de lui qu'avec plus de gens comme lui, le monde serait meilleur. Donc, ça m'a donné quand même envie de l'accueillir. Je l'avais vu aussi sur une conférence et je connais son discours et ses qualités d'orateur, mais surtout humaine. Et c'est un grand amoureux des arbres, comme il a pu nous le donner, puisque la forêt a été quand même en ligne conductrice sur nos trois invités. Corinne Morel-Darleux, j'ai découverte via un podcast qui m'a été envoyé un jour où je n'étais pas forcément en forme. Et son podcast pour essayer de décaler les choses malgré tout ce qui ne va pas, qui nous permettait de regarder les choses autrement, m'ont donné envie de la connaître un peu plus, un peu mieux. Et j'ai été vraiment très contente de l'accueillir hier soir et d'avoir surtout tout son apport de travail en tant qu'ex-élue, puisqu'elle a été également élue à la région, en tant que sensible par rapport au lien à la nature. Je vous invite à lire ses essais, ses romans, qui nous replacent, nous, en tant qu'êtres humains, en tant que sapiens, réellement dans notre milieu naturel et dans notre lien surtout aux animaux, parce qu'on a beaucoup d'essais de choses via la nature, les plantes, etc. Et elle nous passe vraiment sur quelque chose d'animal, de sensuel, de sensible, et qui est vraiment touchant à tout niveau, qui fait encore une fois... bouger. Et puis François Yen, comme vous l'avez dit, qu'on ne présente plus, mais qu'on avait rarement entendu. On a toujours vu son travail et c'était intéressant aussi d'avoir son point de vue puisque il cherche souvent l'opposition pour réussir à se placer. Alors malgré ce qu'il dit, non, je ne fais pas des éléments pour avoir le point de vue de tout le monde. En tout cas, en tant que spectatrice, là, je parle vraiment pour moi. Moi, j'ai ce sentiment-là et j'ai surtout le sentiment qu'il arrive à nous faire décaler notre curseur. Je repense à la pièce « Olivier Masson, doit-il mourir ?» On arrive avec une idée préconçue. Moi, je suis pour ou je suis contre l'euthanasie, puisque c'était le sujet de la pièce. Et puis au final, on repart avec des nuances, avec des petits décalages, à se reposer des questions. Et puis ça tourne. La pièce « Mort d'une montagne », c'est la première que j'ai découverte de son travail. J'avoue qu'elle continue à tourner à chaque fois que je vais aller dans la nature. Il y a des textes, il y a des mots, il y a des ressentis à se dire oui, c'est vrai. Est-ce que tout doit être accessible à tous tout le temps? Pourquoi? Comment? Où? Surtout sur la nature. Jusqu'à quel point nous, hommes, doit-on l'impacter? Quel est le retour qu'elle peut nous faire?
Qui sonne en plus dans l'actualité en ce moment avec la chute du glacier en Suisse à Blatten. Enfin, c'était.
Alors, la chute du glacier en Suisse, on a tous et toutes vu le voile qui s'est immiscé dans notre ciel. C'est derniers jours et qui viennent des feux de forêt du Canada. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui nous permettent de faire. Et pour moi, vraiment le lien qui entre ces trois invités était cette notion de nuance. Même s'ils ont tous et toutes une posture qui leur est propre, ils sont en recherche permanente de nuances, de postules et de même eux se remettre en question de manière permanente. Toujours avec leur bonne foi qui les conduit à avancer et à agir, puisque c'est beau de penser, mais surtout de passer à l'action.
Eh bien, je vous propose justement de revenir avec nos trois invités qui étaient présents hier. Quelles sont les lueurs d'espoir quand on pense demain ?
Les lueurs d'espoir, moi, je les vois aujourd'hui, en tout cas depuis mon poste d'observation, principalement du côté de l'auto-organisation, de tout ce qui s'est mis en place, notamment depuis la pandémie, en termes de réseaux d'entraide, de cantines populaires, de systèmes alternatifs en fait de prise en charge qui, pendant la pandémie, sont venus pallier aux défaillances de l'État, qui, hélas, voilà, on le sait, laisse les services publics se faire démanteler petit à petit, mais qui, au-delà de pallier aux défaillances de l'État, propose vraiment autre chose, en fait, je pense, un autre modèle collectif, solidaire, qui est vraiment, pour moi, porteur d'espoir.
Moi, je vois une lueur d'espoir également dans les gens qui s'activent, pas forcément s'engagent, parce que ça voudrait dire que les autres ne sont pas engagés, mais les gens qui s'activent pour essayer de faire émerger des nouvelles choses, alors que ce soit dans les alternatives dont parle Corinne, ou de prendre des positions dans différentes institutions, de venir porter des éléments de débat, de mener des actions à tous les niveaux, et notamment dans les conseils municipaux, il y a des gens qui se présentent pour s'occuper de la vie locale. Dans les associations, il y a des gens qui se motivent pour s'occuper de la vie locale et de ce qu'on fait en commun sur les territoires. Et ça, c'est le prélude à n'importe quel changement.
J'ai l'impression que quand on réunit des gens pour objectif de réfléchir ensemble à des choses qui nous importent, généralement, les résultats vont dans le bon sens. Et c'est ça qui est d'ailleurs assez frustrant, c'est de se dire, je me souviens que c'était très frappant pendant les Gilets jaunes, de se rendre compte que c'était des personnes qui s'étaient mobilisées contre une politique fiscale qui leur avait semblé confiscatoire, mais qui avait des objectifs écologiques. Et puis qu'en fait, finalement, quand ils s'étaient fédérés, qu'ils avaient réussi de rond-point en rond-point à bâtir un semblant d'organisation et à faire remonter des revendications, ces revendications, elles étaient complètement du côté d'une fiscalité juste et complètement du côté d'une restauration des services publics de l'État, etc. etc., etc. J'ai l'impression que c'est vrai aussi des comités de citoyens qui sont tirés au sort, et quand on fait des sondages de début et des sondages de fin, c'est étonnant de constater à quel point l'évolution, elle est toujours du côté d'une restauration des solidarités collectives, etc. Et alors pourtant, au niveau global, la France se droitise et on a l'impression que ces idées perdent en puissance. Et c'est cette frustration-là qu'il faut qu'on réussisse à dépasser pour penser ce hiatus. En tout cas, moi, je trouve que on réussit localement à faire des choses effectivement qui sont très réconfortantes, et peut-être qu'on a aussi besoin de ça au fond, sinon d'espoir, au moins de réconfort.
Depuis quelques années, on entend l'expression le vivre ensemble un peu comme un mantra, et ce soir, j'ai l'impression qu'on a davantage entendu parler du vivre en commun. Alors pourquoi ce vivre en commun plutôt que ce vivre ensemble ?
On a beaucoup parlé ce soir des communs, tous ceux que l'on partage, dont on a plus ou moins conscience. Et on a aussi beaucoup parlé des récits. Quand on vit en commun, c'est vivre avec nos communs, respecter nos communs. Et je crois que c'est beaucoup de ça dont on a parlé aujourd'hui, en regardant que la société et les mœurs s'individualisent beaucoup par le truchement médiatique, publicitaire et réseaux sociaux. Et pour autant, les communs dont on a besoin d'air, d'eau, de nourriture, de logement, sont toujours les mêmes. Et il faut bien qu'on les prenne en compte pour que les individus puissent exister dans ces communs.
On a parlé donc de dignité. Et comment est-ce qu'on peut rester digne justement en pensant à demain ?
Sur la dignité, d'abord, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on a besoin, peut-être aujourd'hui plus que jamais, de boussole éthique, c'est-à-dire pas forcément de réponses toutes faites. Je crois que c'est très difficile aujourd'hui de prétendre donner des réponses, quels que soient les individus, quelles que soient les conditions matérielles d'existence. Et puis, on est dans un présent déjà très incertain, donc je ne parle même pas de l'avenir. Donc, plutôt que des réponses, se munir de boussole, par contre, ça me paraît important. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je parle souvent de dignité, notamment de dignité du présent, comme étant une manière de justifier... tous les matins, de se lever et puis d'y aller, de continuer à s'engager, de continuer à à mener des luttes, de continuer à se battre pour des valeurs qui sont aujourd'hui pas du tout dans l'air du temps, de coopération, de solidarité, de gentillesse. Et ça, pour trouver des raisons de continuer à le faire, bah parfois, il faut pas trop se tourner vers le futur, parce qu'on risque d'y voir des victoires de plus en plus hypothétiques et un monde qui sombre, et de rester peut-être focalisé sur le présent en se disant que si on s'engage, c'est avant tout parce que ces luttes, ces valeurs nous semblent justes à mener, à porter aujourd'hui. Donc voilà, c'est une manière de rester digne. Et puis, j'ai aussi le sentiment que plus ça va, plus le monde devient moche et indigne et indécent, plus moi, ça me donne envie de redoubler justement de décence, de gentillesse et de dignité.
La question me fait vraiment penser, moi, la dignité, je la mets dans quatre yeux, qui sont les yeux de mes deux filles. Elles vont grandir dans le monde dont on parle. Comment, dans le futur, j'aurais été suffisamment digne pour leur dire j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et au-delà de ça, je ne sais pas s'il y a un autre endroit où la placer.
Et souvent, quand on parle de la fin du monde, on pense à ceux qui seront là après nous. Ou est-ce qu'il y a aussi une lueur d'espoir du côté de la jeunesse? Parce que c'est peut-être eux, en fait, la solution. C'est peut-être pas nous, c'est peut-être eux.
J'ai une petite réponse toute faite là-dessus. Anthropologiquement, c'est génial. Parce qu'on va rentrer dans une période avec des incertitudes où on va voir émerger des choses formidables, des choses dégueulasses, des choses... Mais à observer, ça peut être génial. À vivre, je ne sais pas. Il y a tout un tas de dystopies qui ont été écrites, des plus belles aux plus moches. Quelle énergie ça va nécessiter et est-ce que ça va être conflictuel ou pas? C'est ça la grande question. Donc selon l'œil avec lequel on le regarde, est-ce que c'est plein d'opportunités parce qu'il faut tout réinventer ou est-ce qu'on regarde seulement les pertes et on pleure ou on arrête le jeu? C'est un choix à faire.
Moi, je veux simplement dire que je trouve que là encore, il y a un curieux paradoxe que je ne m'explique pas tout à fait, mais je trouve que... Enfin, bon, moi, je m'en suis voulu parce que j'ai dit des choses tout à fait accablantes tout à l'heure, en plus devant des jeunes gens qui participent au projet et qui ont besoin quand même qu'on les plombe pas trop. Et j'ai des enfants. Et il y a une partie de mon cerveau qui voit l'avenir un peu bouché. Et en même temps, j'ai fait des enfants... dont j'espère qu'ils seront heureux et dont je ne veux pas connaître la fin de l'histoire. Genre, c'est ça qu'être parent, c'est à un moment donné accepter la finitude parce qu'on inaugure une histoire dont on ne veut pas connaître la fin, puisque dans l'ordre des choses, on est censé partir avant ses enfants. Et donc, ils vont me survivre dans un monde où j'espère qu'ils seront heureux et je n'en doute pas. C'est ça qui est curieux. C'est-à-dire que je les vois être des enfants pétillants et heureux, tout à fait conscients de ce qui se joue. Leur conscience se développe à l'ombre de cette grande catastrophe. Ça ne les empêche pas d'être des enfants joyeux. Et la question, du coup, ne se pose pas du tout. Je trouve que la question de... J'ai des amis qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils ne voulaient pas... Et je me dis, c'est... Effectivement, c'est une pensée qu'on ne peut avoir que quand ils n'existent pas encore. Quand ils existent, cette question est naturellement résolue. Ils sont là et leur vie serait heureuse. Je ne sais pas exactement comment m'expliquer ça.
C'était donc Corinne Morel-Darleux, François Hien et Benjamin Raquin au micro et à la technique d'Élodie.
Radio B. Radio B.
Alors, on l'a dit, il y avait hier François Hien. Alors François Hien, il était fort présent cette année à la scène nationale avec la crèche Éducation nationale. Et prochainement donc, le signalement, il fait, si je ne me trompe pas Julie, du théâtre documenté, c'est ça hein?
Alors, tout dépend de ses pièces, mais généralement, il prend beaucoup de temps quand même, et ce qu'il nous disait hier, à s'informer, à incuber un petit peu tout ça. Il s'inspire aussi des gens viennent lui apporter des histoires. Et c'est donc un artiste qui est pluriel à la scène nationale. Alors, c'est toujours nos petits jargonnages cultureux. C'est un artiste qui est suivi depuis la mise en place de la scène nationale à Bourg, c'est-à-dire depuis septembre 2022. Il a été en fil conducteur et a pu présenter pas mal de ses pièces. Je crois que quasiment toutes celles qu'il a pu mettre en scène ont été présentées, puisqu'on a eu Mort d'une montagne, Olivier Masson, etc., etc. Et cette année, donc, la crèche, Éducation nationale, et bientôt, très bientôt, les 5 et 6 juillet, le signalement. je te laisse nous en parler, Pascal.
Oui, parce que c'est un projet auquel tu participes.
Oui, j'ai cette chance donc, de participer au projet du signalement. Donc, avec 30, on est une trentaine d'amateurs et d'amateurices, encadrés donc, par la compagnie qui s'appelle l'Harmonie Communale, qui est la compagnie de François Yen, mais où n'est pas seul. Hein. Il y a Léa, il y a Flora, il y a une costumière, enfin voilà, il y a une équipe vraiment qui nous fait participer. C'est une aventure assez incroyable que nous permet auquel nous permet de participer la scène nationale de Bourg-en-Bresse, parce qu'on participe à un processus créatif, en fait, participer à la création d'une pièce de théâtre, Le Signalement. Donc, qui a pour but, après une enquête qu'ils ont fait en effet au sein du lycée autogéré de Paris, qu'a fait François et Léa, qu'ont fait François et Léa, cette enquête sur ce lycée autogéré de Paris leur a amené à créer les bases d'une pièce qui va se dérouler au lycée autogéré de Bourg-en-Bresse. Et un lycée autogéré, alors moi je l'ai appris, il y a plusieurs piliers que vous connaîtrez en venant voir la pièce. Mais notamment, c'est un lycée qui ne fonctionne qu'avec des professeurs et des élèves. En fait, il n'y a pas tout le reste de l'organisation d'une structure scolaire, c'est-à-dire pas de personnel de cantine, pas de personnel d'entretien, pas de personnel de direction, de surveillance, pas de personnel de soins. Donc, dans cet écosystème singulier et fragile, cet écosystème... Au sein de cette histoire, il va se fissurer lorsqu'en son sein, la question de la protection en fait, va être posée. Qui va-t-on devoir protéger ? L'humain, le système, les idées, une époque. Qui va être sacrifié sur cet autel de la protection ? Vous le saurez. Et non. Il n'y aura pas de réponse à ces questions, parce que c'est aussi ça le théâtre de François Yen, c'est qu'il n'apporte pas forcément de réponse, mais il déplie des dilemmes moraux, en fait. Il les déplie, c'est ce que tu disais, Julie, tout à l'heure, par rapport à des idées comme, par exemple, sur l'euthanasie qu'on peut avoir en venant voir ces pièces. Là, on peut avoir un avis sur la protection des personnes, des enfants, la protection des personnes par rapport à des violences sexistes et sexuelles notamment. On ne ressort pas révolutionner de nos idées, mais quand même, ils nous donnent à voir, à déplier des choses qui questionnent, qui nous réinterrogent, qui nous font douter. Et ça fait du bien de douter. En tout cas, tout ce que vous allez voir, je l'espère, lors du signalement, c'est ce que nous, on traverse en participant au projet. C'est ce qui nous ont fait traverser, déplier ces dilemmes moraux, ces questions, se les poser, en échanger et en sortant du coup une manière créative.
Du coup, on revient exactement sur le thème de notre soirée d'hier, puisqu'on est sur le comment. Exactement. Et c'est également pour ça que je trouvais intéressante la position et la posture de François pour justement aller titiller nos dissonances cognitives que nous avons tous et toutes. Et on ne sait pas toujours quoi en faire. Ouais. Et il réussit à nous faire nous questionner nous-mêmes. Et c'est ça où c'est la magie des choses. Et écrire quelque part à 30 personnes, parce que même si il écrit, il vous prend en compte chacun, chacune, avec vos singularités, vos personnages, vos envies, c'est quand même une belle prouesse. J'ai hâte, en tout cas, d'aller voir la pièce.
Oui, alors c'est une prouesse, mais c'est aussi ce que j'avais pas mesuré tellement au début, parce que ce sujet est un sujet... Comme je connais un peu ce sujet au niveau professionnel, j'y étais allée un peu en me disant... on va voir ce qu'ils vont en faire, mais j'avais l'impression de connaître le sujet. Et je tiens à dire que c'est quand même un sujet qui a brassé, qui nous a brassé tous les participants, je pense qu'il nous brasse encore, mais que ça s'est fait du coup en toute sécurité et toute bienveillance, qui est l'harmonie communale, comme notre maman canard, qui est Gaëlle Carrier de la scène nationale, ils avaient très conscience de ça, en fait, que aussi manager un groupe, encadrer, en sortir une substantifique moelle créative sur un sujet aussi, ça peut brasser brassée. On travaille avec une quinzaine d'adolescents, mais ça n'a pas brassé que les adolescents, hein, ça a brassé tout le monde. Voilà, on l'a fait, on le continue à le faire en toute sécurité et toute bienveillance. Et ça, je pense que ça, c'est ça aussi la prouesse, parce que c'est pas facile d'emmener des groupes.
Et puis c'est ce qu'il disait hier aussi, c'est réussir à refaire du commun par de l'individuel, puisque chacun, chacune a sa propre histoire, sa propre confrontation, de par le vécu, de par l'éducation, de par les générations aussi, puisque on n'a pas du tout le même ressenti selon notre âge. Malheureusement ou heureusement, en tout cas, c'est intéressant de réussir à le travailler. Et malgré toutes ces individualités, bah, réussir à faire un commun où tout le monde n'est pas complètement pour, mais personne n'est contre, et c'est magique.
En tout cas, pour moi, une expérience déjà à ce stade, une expérience humaine, douce et puissante.
Donc, et c'est à découvrir quand ?
Alors, le signalement, il est à la scène nationale de Bourg-en-Bresse le samedi 5 juillet à 15h et le dimanche 6 juillet à 17h.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal. Et la saison n'est pas terminée, hein, Julie, puisque la programmation en cette fin d'année, elle est encore bien riche, avec notamment un événement Fil de l'eau, c'est ça ?
Alors, il reste deux spectacles plus la clôture de saison. Il reste un spectacle ce week-end qui se déplace au Monastère Royal de Broue vendredi et samedi, donc vendredi 13 et samedi 14 juin, au Monastère Royal de Broue. Il s'agit d'un premier spectacle qui s'appelle Lévitation et d'un deuxième qui s'appelle Fragile avec le groupe Nuit, de la danse dans le deuxième cloître, avec une mise en hauteur et vraiment un travail de vidéo où les acteurs vont être amenés à s'envoler dans un cylindre. Donc je vous laisse aller découvrir ce spectacle. On accueillera à la fin du mois l'humoriste de Jamie Le Schlag, qui œuvrait sur certaines ondes d'autres radios dont nous tairons le nom. Non, je rigole. Non. Puisque c'est pas Radio B, on peut pas en parler. donc pareil, il viendra à la fin du mois. Et entre-temps, pour celles et ceux qui ne savent pas quoi faire la semaine prochaine, 18 et 19 juin, il y a la présentation de saison qui permettra de découvrir tous les nouveaux spectacles de la saison prochaine. Je n'ai rien le droit de vous dire. Je peux juste vous raconter qu'il va y avoir du beau monde, de la danse, de la musique en partenariat avec la tannerie, encore un brin de cirque, encore plein de surprises, des compagnies locales, des compagnies plus connues. Enfin, vraiment, venez découvrir tout ce qui va se passer, puisqu'encore une fois, les présentations de saison se déroulent avec nos artistes complices, avec des virgules artistiques, en plus de la présentation des spectacles et de toutes les actions qui se déroulent autour des spectacles et bien sûr des soirées regards.
On y va.
Et oui, la clôture de saison, donc, ce sera les 4 et 5 juillet prochains. Okay. C'est en partenariat avec le syndicat Ressous et Affluents, puisque c'est pour mettre en avant aussi la Lecha et avec notre troisième partenaire qui est la MJC, puisque tout se déroule en ces lieux avec ces deux autres partenaires. Il va y avoir au programme pas mal de spectacles riches et variés. On va retrouver un peu tous nos artistes complices au fil de l'eau. Oui, monsieur Sef-Saf revient. Mais avant tout, le premier, il ne va pas être là, il va être au Dévora, puisqu'on oublie souvent cette deuxième rivière de Bourg. Donc, à la Croix-Blanche, un spectacle tout public pour avoir en famille qui s'appelle Vent d'Ouest, où on va remettre un peu les cow-boys au goût du jour, version Far West clown, avec des acrobaties. C'est vraiment un spectacle pour tout le monde, toute la famille. C'est génial, c'est gratuit et c'est à 19h le vendredi 4 à la Croix-Blanche.
Et je crois que j'ai eu la chance de voir ce spectacle au Grand Bornand l'an dernier, au Bonheur des Mômes. Et si c'est bien ça, c'est vraiment... On en regarde partout pendant tout le spectacle, on en prend plein la vue.
Ils sont dans tous les sens, ils volent, il y a du trapèze, il y a de l'équilibre, enfin c'est assez génial. Et puis pour la deuxième partie, le lendemain, qui tout se déroulera au niveau de la MJC, enfin du bâtiment de la MCC, il y aura une buvette sur place également. Et tout est encore une fois gratuit. On va retrouver l'Arbre Canapas qui va nous faire une intermède musicale. On va retrouver nos amis de la compagnie Arnica qui montrent un spectacle de marionnettes qui s'appelle Castellet is not dead, puisque c'est un spectacle de Castellet. Donc pour tout le monde, le Castellet, c'est le théâtre de Guignol, c'est le cadre avec les théâtres, les marionnettes à main. On va retrouver Yann Rabalan, qui avait été notre artiste complice sur Amour, qui montre un spectacle avec une roussière de danse de roussière et avec un violoncelle en live, qui c'est un spectacle magnifique. On retrouve également un spectacle de trampoline qui s'appelle Clan Cabane, qui est juste génial. Non, mais vraiment, le spectacle est fabuleux. Okay. Et on finit avec notre cher et tendre Abdel et Malik au violon, puisque c'est le groupe Alligator qui va clore la soirée du samedi à la MJC. Donc, un beau temps fort pour finir l'année. Tous ces spectacles sont gratuits, donc il faut venir en profiter.
Eh bien, merci beaucoup, Julie, pour ces derniers rendez-vous qu'on retrouve sur le site de la scène nationale de Bourg-en-Bresse. Eh bien, merci aussi pour cette année en ta compagnie.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Pascal. On remercie également Elodie, qui n'est pas là exceptionnellement aujourd'hui. Et puis, on remercie aussi Jimmy à la technique.
Merci, Rémi.
Eh bien,
merci,
je pense Rémi. Que c'est le moment de te dire au revoir. Et ben, bah, à la prochaine.
À l'année prochaine.
Allez, bon été.
Au revoir.
Regard.
L'émission qui multiplie les points de vue.
En partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse.
À écouter sur Radio B.